France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation littéraire consacrée aujourd'hui à l'autrice suisse germanophone Anne-Marie Schwarzenbach, à l'occasion de la publication aux éditions Zoé Poche de Monde en Monde, reportage 1934-1942, traduction de l'allemand de Nicole Lebris et Dominique-Laure Miermont-Grant, que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui toutes les deux. Bonjour Nicole Lebris.
Bonjour.
Bonjour Dominique Miermont-Grant.
Bonjour Mathias Sénard.
Dominique Miermont-Grant, vous êtes traductrice de l'allemand. Vous avez traduit, outre Anne-Marie Schwarzenbach, son ami Klaus Mann, mais aussi Kafka ou encore Rainer Maria Rilke. Vous êtes aussi la biographe d'Anne-Marie Schwarzenbach, biographie intitulée « Anne-Marie Schwarzenbach ou le mal d'Europe » parue aux éditions Payot. Et vous, Nicole Lebris, vous êtes normalienne, traductrice notamment du grec moderne et de l'allemand, de textes d'Anne-Marie Schwarzenbach. Commençons d'abord par remonter aux origines de votre passion commune, si vous le voulez bien. Quand est-ce que vous découvrez l'œuvre de la Suissesse Anne-Marie Schwarzenbach? Dominique Miermont, est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, très précisément. C'est ce que j'écris au début de la biographie que j'ai écrite. Une amie suisse, justement, de Zurich, m'apporte une revue, Der Alltag, une revue littéraire, et sur la couverture de cette revue, il y avait une photo. Une photo qui m'a tout de suite interpellée. Cette amie m'a dit, à ton avis, c'est une femme ou un homme? Et je dois dire que j'ai été assez indécise. Donc j'ai fini par dire que c'était un homme avec des traits très féminins. Et en fait, c'était une femme, Anne-Marie Schwarzenbach. Voilà, ça a été le choc.
Et à partir de
là, la photo.
Et à partir de là, vous êtes mis à lire.
Voilà. À l'intérieur de cette revue, j'ai découvert que Anne-Marie Schwarzenbach était amie avec Klaus Mann. Or, je m'étais déjà intéressée à Klaus Mann, sans avoir rien traduit de lui à cette époque. Mais j'avais cette intention. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette rencontre entre Klaus Mann et Anne-Marie Schwarzenbach? Donc j'ai lu l'article et j'ai découvert des choses qui m'ont beaucoup intéressée, à savoir une amitié dans la lutte contre le fascisme, donc contre Hitler. Et ça m'a évidemment interpellée pour aller plus avant dans la vie d'Anne-Marie Schwarzenbach.
Et vous, Nicole Lebris?
Tout simplement à travers Dominique. Autour des années 2000, nous avons fait connaissance, nous sommes devenus amis. Elle était en pleine rédaction de sa biographie d'Anne-Marie. Elle m'en a parlé. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et de sympathie ce qu'elle faisait. Et en particulier, elle m'a montré des poèmes d'Anne-Marie, écrits au Congo, que j'ai trouvé tout à fait remarquables. Tu te souviens?
Oui, bien sûr. Rive du Congo.
Je l'ai incité à les publier, même en bilingue, pour que la poésie de l'œuvre soit encore plus sensible. Mais c'est ce qui a été fait. J'en ai écrit la préface et à partir de là, s'est mise en route une collaboration de plus en plus proche, disons.
Alors vous avez, à vous deux, presque traduit tout ce qui est publié en français d'Anne-Marie Schwarzenbach, et notamment de Monde en Monde, ce rassemblement de ses reportages et articles parus dans les journaux et magazines suisses tout au long de sa vie. Alors Anne-Marie Schwarzenbach est née en 1908 et morte tragiquement jeune en 1942. Sa passion, toute sa vie, ça a été l'écriture, Dominique Lambert.
Oui, l'écriture. Et le voyage. Le voyage qui permet de découvrir des pays insoupçonnés. Enfin, l'écriture, oui, qu'est-ce que tu dirais, Nicole?
Mais tu te souviens qu'elle dit aussi qu'en effet, elle ne peut pas vivre sans écrire. Voilà. Mais l'écriture, pour elle, c'est quand même avant tout l'écriture de fiction, de poèmes. Elle dit à un moment donné, la photo, le journalisme, tout ça, ça compte pas beaucoup. Ce qui compte pour moi, c'est écrire. Mais écrire, c'est un petit peu autre chose que le journalisme. Le journalisme, c'est un niveau d'écriture qu'elle entendait passer.
qu'un temps dépassé. Pourtant, c'est ce qui l'a aussi occupé un peu largement pendant toute sa vie, même si, puisqu'elle provenait d'une famille extrêmement riche de Zurich, elle n'avait pas vraiment besoin de travailler. Néanmoins, elle est aussi attachée à cette forme d'indépendance. On voit ça dans ses lettres. Elle a le désir de publier. Elle a le désir de raconter aussi ses voyages par leur portage.
Voilà, elle a le désir de raconter l'être humain, l'homme, dans différents pays. Absolument. Elle va à la recherche, justement, en quête de ce qu'elle appelle ses frères humains, hein, et qui vivent différemment d'elle, justement, qui ne sont pas forcément privilégiés comme elle, et qui luttent pour leur vie et leur survie dans d'autres contrées, que ce soit le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et puis les États-Unis, l'Afrique. L'écriture, évidemment, est la possibilité de témoigner de la façon dont vivent les autres, et de montrer, de témoigner d'une empathie et d'une sympathie pour je répète le terme, ses frères humains qui l'ont poursuivi jusqu'à la fin de sa vie.
Donc on peut peut-être découper son existence en plusieurs périodes de voyage. Les débuts des années 30 au Proche-Orient, c'est notamment ses premiers reportages en Syrie, en Irak, toute cette première période qui va jusqu'en 1935, ensuite les États-Unis une première fois, puis l'Europe de l'Est, toute la période de la montée du nazisme en Autriche notamment, 37-38. Une deuxième période en Afghanistan, avec ce fameux voyage sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, avec Ella Maillard et les reportages qui vont avec. Et puis les États-Unis de nouveau pour 1940-1941, l'Afrique. Et enfin, son décès prématuré après cet accident de vélo en 1942. Et à quel moment est-ce que elle décide de partir? À quel moment est-ce qu'elle utilise sa passion pour l'histoire et l'archéologie pour quitter sa Suisse natale et se rendre au Proche-Orient, Nicole Lebris?
Oui, alors là, c'est en 33, hein, je crois. On lui propose d'aller faire des fouilles archéologiques au Moyen-Orient, et pour elle, elle saisit cette occasion, d'une part parce que c'est le moyen de quitter sa famille, de montrer qu'elle est capable de faire quelque chose de concret par elle-même, de montrer donc ses capacités professionnelles. Et puis, pour une autre raison qui est sûrement très importante, elle écrit qu'elle veut faire des fouilles archéologiques dans cette région qui est le berceau du monde. D'ailleurs, elle rêve beaucoup sur cette notion de berceau du monde, pour prouver l'idiotie, l'absurdité des thèses de ces imbéciles de nazis qui veulent discriminer les races. Voilà. Donc il y a une raison idéologique profonde qui fait qu'elle part faire des fouilles précisément aux origines de l'humanité.
Dominique Miremont.
Oui, c'est exactement ça. Le désir de s'éloigner de l'Europe qui commence à basculer dans le fascisme.
Oui, la prise de pouvoir des nazis en 1933.
Ben voilà, c'est ça. Et aussi de prouver à ses amis, Klaus et Erika Mann, qu'elle est capable de faire quelque chose par elle-même, d'œuvrer, alors qu'eux ne bougent pas véritablement. Ils ne vont pas au-devant, en quête des autres populations. Eux, ils restent, ils font leurs écrits, enfin, ils écrivent sur l'Allemagne, la façon dont l'Allemagne est en train de basculer, Klaus Mann en particulier. Mais elle veut aller voir sur place, et c'est très important ce que dit Nicole Lebris sur démolir les thèses racistes des nazis dans le berceau de l'humanité, quoi.
Alors, ce berceau de l'humanité, c'est le Moyen-Orient. Et pour elle, ça commence notamment en Syrie, si je ne me trompe pas, au Liban et en Syrie, où elle avait des contacts avec l'archéologie pendant le mandat français. Et elle-même, elle fouille, elle participe à des fouilles archéologiques, Nicole Lebris.
Oui, tout à fait. Elle acquiert une véritable expérience.
Oui,
elle est professionnelle. Elle apprend même, elle apprend l'arabe, il me semble, à un moment.
Oui, tout à fait. Avant de partir, elle apprend l'arabe, justement.
Oui.
Et le perse.
Elle est très consciencieuse,
et le persan,
comme archéologue.
Elle est consciencieuse comme archéologue. Elle aussi, elle a un doctorat en histoire.
Oui. Mais on a affaire à quelqu'un de très cultivé, de très sérieux, d'une grande intelligence. Non seulement une intelligence, disons, une intellectuelle, mais une intelligence aussi des rapports entre les gens, une intelligence, je dirais, humaine. C'est quelqu'un qui va au-devant des gens et qui sait leur parler, qui sait les mettre en confiance dans des pays qui ne sont pas forcément habitués à voir une jeune femme avec un appareil photo, un micro. Et elle va au-devant des gens, bon, que ce soit aux États-Unis ou au Moyen-Orient, ou au Proche-Orient, enfin, partout, elle est appréciée. et elle arrive à faire ses reportages, justement, à nourrir ses reportages de cette proximité qu'elle a avec les populations autochtones.
Alors ces reportages, justement, qui sont regroupés dans ce volume de Monde en Monde, qui s'ouvre par cette période du Proche-Orient, 1933-1935, ceux de Damas, de Syrie, le Noël syrien, sont absolument magnifiques. C'est vraiment des descriptions extrêmement fines, très belles, non seulement des paysages, bien évidemment, du Moyen-Orient, mais aussi des gens, justement, hein, des êtres humains qu'elle rencontre et pour lesquels elle a une véritable empathie, Nicole Le Bris.
Oui, oui. Et d'ailleurs, cette qualité de contact avec les gens apparaît très très bien dans ses photos. Elle a été un reporter photo tout à fait remarquable. Il y a eu une exposition à Lisbonne il y a quelques années qui montrait en majesté ses photos. Et c'est d'une qualité extraordinaire, mais pour deux raisons à la fois. Ce sont des images qui sont très construites. Construite géométriquement, construite cadrée. Et puis, il y a ce contact avec les gens. Elle photographie très souvent des gens. On sent que les gens se laissent photographier, même aux États-Unis, hein, quand elle va voir les chômeurs. On l'avait dit, soyez prudente, ne montrez pas trop votre appareil photo. Eh bien, ces gens la regardent. Et ils la regardent avec sympathie. Ils se laissent photographier. Et de la même manière, en Asie, elle a pu prendre ainsi des gens très facilement, dont on aurait pu imaginer qu'ils soient effarouchés par la photo.
Et justement, le volume de Monde en Monde que rééditent les éditions Zoé est illustré de nombreuses photographies d'Anne-Marie Schwarzenbach. Il faut dire qu'on a la chance de posséder, dans le fond des archives de littérature suisse de Berne, des centaines de photos d'Anne-Marie Schwarzenbach qui sont un peu aussi le résumé de tous ses voyages, même si, je ne sais pas si à l'époque, dans les magazines, ces photos étaient déjà publiées.
Et oui, ils étaient publiés. Justement, elle avait des contrats avec différents journaux, différents illustrés, ce qu'on appelait illustrites. Oui. Alors, donc, les photos étaient souvent reprises en grand format. Et il y aurait une chose magnifique à faire, que j'essaye de faire par un éditeur, mais je ne l'ai toujours pas trouvé, c'est de publier ces reportages dans leur état, dans leur format originel.
Ah oui, de reproduire avec l'emplacement des photos et des photos qui allaient avec
le texte. Avec les textes.
Parce qu'ici, on a quand même une bonne idée des images, mais évidemment, il y en a sans doute beaucoup moins dans le volume et la qualité. Évidemment, le livre est petit, donc la qualité n'est peut-être pas la même que si ces photos étaient éditées dans un genre de magazine. Elle est donc sur la route de Damas, elle est au Liban, ensuite elle s'en va jusqu'en Irak. Et il y a un texte extrêmement surprenant où elle décrit un vol de nuit au-dessus du désert, où elle s'envole depuis la Syrie. Elle va donc traverser l'Euphrate en avion et aller jusqu'en Irak. Donc, en 1934, absolument incroyable ce récit, cette description de cet envol. Moi, j'ignorais, je ne connaissais pas ce texte, Nicole Le Bris.
Autant que je me souvienne, elle a à ce moment-là l'impression de se retrouver au-dessus de, ben précisément d'une terre qui correspond au début de l'humanité.
Voilà, exactement.
De l'humanité.
Tout à fait.
Il y a toute une rêverie là derrière, parce que une des premières choses qu'elle a écrite, c'était dans une lettre au pasteur Merz, là, je crois qu'elle avait quelque chose comme 17 ans. Elle disait ceci que nous avons mis en tête du volume de Monde en Monde. Je veux voyager, dit-elle, de monde en monde pour obtenir le pardon de Dieu et trouver la source de la pureté. Ce qui est une expression tout à fait extraordinaire. Comment trouver la source de la pureté? La source est un mot très concret. On a l'impression qu'elle place cette source dans un lieu précis. Eh bien, en fait, même ces reportages sont irrigués par cette espèce de fantasme, de rêverie sur le point où on pourrait retrouver les origines de l'humanité et peut-être par conséquent quelque chose qui aurait précédé le péché originel. Parce qu'il y a toute une imprégnation biblique de son imaginaire.
Alors il faut dire quelque chose de sa famille, Dominique Miremont, parce que c'est aussi de là dont elle tire cet aspect religieux. Une grande famille zurichoise.
Oui, très fortunée.
Très fortunée.
Le père est un grand industriel de la soie. Alors, il faudrait parler, oui, évidemment, de ses origines. C'est son enfance aussi. Son enfance dans une propriété très luxueuse, mais où elle se sent complètement enfermée parce qu'elle ne peut pas aller à l'école avant l'âge de 15 ans. Elle est prisonnière d'une certaine façon. Elle a d'ailleurs écrit un texte qui s'appelle, à cette époque, La princesse prisonnière. qu'on a traduit mais qui n'a pas été publié. Oui, la princesse prisonnière, c'est elle. À 15 ans, elle peut quand même enfin aller dans un établissement genre pensionnat à Fétane, mais malgré son très grand attachement à sa mère, c'est surtout le problème d'Anne-Marie Schwarzenbach, enfin un des problèmes d'Anne-Marie Schwarzenbach, c'est sa relation avec sa mère, qui est une femme très autoritaire, qui vraiment met le grappin sur sa fille. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle la contient dans la propriété familiale, alors que les autres enfants, elle a trois frères et sœurs, qui, surtout deux autres, qui vont à l'école comme tous les enfants. Elle est mise à part, elle est spéciale. Déjà ressentie comme spéciale par sa famille. Et c'est une, évidemment un sentiment qui ne fera que s'aggraver, puisque elle va ruer dans les brancards, partir dans des contrées absolument impensables pour les parents. Et sa mère, à la fin d'ailleurs, la renverra avec une somme d'argent considérable, et c'est là qu'elle partira pour l'Afrique. En fait, ce sera son dernier voyage. Mais oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est ça aussi le mot, dans ce visage que j'avais découvert aussi, on sentait quand même quelque chose de décalé, une souffrance évidente. C'est un visage qui n'était pas du tout gai, une expression de grande tristesse, mais dont on ne savait pas quelle était la raison, évidemment. Après, quand on découvre sa vie, on comprend.
Mais Nicole Le Bris, dans ses textes, finalement, elle n'évoque que peu les personnages de mère ou de la mère. C'est une figure qui est peut-être très influente en elle, mais qu'on n'a pas l'occasion de croiser dans les textes.
Oui et non, parce qu'on ne voit pas la mère comme personnage constitué, mais à certains moments très inattendus, on retrouve la présence de la mère quand elle parle de son désespoir dans L'amour en Perse, je crois. C'est l'impression qu'elle a d'être complètement perdue, d'être dans un bout du monde dont elle ne pourra jamais revenir. Elle s'écrit tout d'un coup de façon très inattendue, rien ne l'a préparée dans le texte. Maman, comme ce nom aide à pleurer. Donc tout d'un coup, le nom de maman surgit au milieu d'un texte où cette apostrophe semble ne rien avoir à faire. Et quand elle est en Afghanistan, elles sont arrivées en Afghanistan exactement au moment de la déclaration de guerre.
Avec El Amaya, oui, on y reviendra tout à l'heure. Dès qu'on avancera en 1939...
Mais alors, ce qu'elle ne supporte pas, et la raison pour laquelle elle ne reste pas en Afghanistan, c'est qu'elle pense à sa mère. Elle le dit dans son journal. Elle se sent loin de sa mère. Et à ce moment-là, il y a à la fois chez elle le désir de fuir une mère autoritaire qui l'emprisonne, et une loyauté et un amour total à l'égard de cette mère. En sorte que quand elle est loin, certes elle est contente d'avoir fui, mais elle a le sentiment d'avoir déserté. Donc la présence de la mère, elle est toujours là, même quand Anne-Marie la fuit, et peut-être encore plus quand elle la fuit.
Dominique Mirmont, il y a aussi, il faut dire quelque chose, de l'aspect politique de cette relation, puisque c'est certes une relation familiale, mais pour Anne-Marie Schwarzenbach, ça prend aussi une dimension politique.
Bien sûr, parce que donc cette famille richissime est pro-nazie, et en particulier la mère. Parce que la mère va à Munich, l'admire, elle raconte toutes ces croix gammées qui pavoisent les rues, et elle trouve ça magnifique. Quant au père, il dit à Anne-Marie, qui fréquente évidemment Klaus et Erika, qui lutte contre Hitler, contre la montée du nazisme, en disant, mais t'as autre chose à faire, retourne donc en Allemagne soutenir la grande cause magnifique de Monsieur Hitler. Donc, c'est absolument épouvantable pour elle, qui aime ses parents, quelque part, de devoir s'opposer à eux fondamentalement et de choisir une voie qui est complètement contraire à eux.
Vous venez de les mentionner, on va retrouver un peu, au fil des années, ces enfants Mann, Klaus et Erika. Comment est-ce qu'elle les rencontre, alors? De Thomas Mann.
Oui, le fils. Elle rencontre d'abord Erika, par hasard, à Munich, lors d'un déjeuner, Et Erika lui dit qu'elle a un frère, et donc elle rencontre un peu plus tard, deux mois plus tard, Klaus. Et c'est vraiment une rencontre de deux êtres qui sont très, qui ont des affinités extraordinaires, qui ont des sensibilités très proches. Et oui, c'est son frère, et elle, c'est d'une certaine façon sa sœur pour lui. Et ça ne se démentira pas jusqu'au bout. Alors qu'avec Erika, les contacts sont beaucoup plus conflictuels. Erika n'a pas une très bonne opinion d'Anne-Marie Schwarzenbach. Elle n'apprécie pas du tout la façon dont elle vit, dont elle se drogue aussi. Alors, Berlin, à l'époque, il y a aussi le problème de la drogue. C'est d'ailleurs les enfants Mann qui initient Anne-Marie Schwarzenbach. Ça, c'est évidemment un gros problème, parce que Anne-Marie finira par mourir de cette addiction dont elle...
À la morphine.
À la morphine, oui. Et Klaus et elle passent de cure de désintoxication à une autre. Mais elle est particulièrement fragile, alors qu'Erika arrive à contrôler sa consommation. Elle et Klaus fait beaucoup aussi de cure de désintoxication. Et d'ailleurs, la dernière, ce sera à Cannes, à la veille de sa mort, en 49. Sa mort, qui est une forme de suicide. On peut dire aussi que la mort d'Anne-Marie Schattenbach, c'est longtemps, petit à petit, progressivement, suicidée avec la drogue.
Elle est aussi passionnément amoureuse d'Erika Mann au début, oui, de leur moment vrai. De leur rencontre. Il oui. y a des photos assez magnifiques, d'ailleurs, on les voit tous les trois. Il y a quelque chose d'une grande tendresse qui émane, aussi d'une grande nostalgie qui émane de ces clichés. Alors c'est une passion qui ne donnera rien, parce que justement, comme vous venez de le dire, Erika n'a pas du tout les mêmes sentiments envers Anne-Marie.
Mais c'est vrai que bon, il y a aussi quand même la figure de Thomas Mann. C'est-à-dire, pour Anne-Marie, ce sont les enfants de Thomas Mann. Elle est donc introduite dans cette famille. Elle rencontre Thomas Mann qui apprécie son écriture, enfin en particulier les textes sur l'Orient, la cage aux faucons ou quelque chose comme ça, ce qu'on a traduit. Il essaye d'ailleurs de promouvoir, enfin de faire passer certains de ses textes, de même que Stefan Zweig. Elle rencontre à travers donc les Mann, les enfants Mann, les aînés, et qui essayent aussi de l'aider parce qu'ils apprécient son écriture, sans aucun doute. Mais bon, en même temps, Thomas Mann la traite d'ange déchu ou d'ange...
Inconsolable.
Non, pas vraiment, mais c'est pas lui. Mais voilà, enfin, oui, dans une forme d'ange déchu, dit-il. Donc, il y a la famille Mann. Est-ce que je voulais dire aussi, c'est que, bien sûr, ils forment un trio qu'on voit très bien, par exemple, sur une photo à Venise. Ils sont à Venise pour se consoler de la mort de Ricky Halgarten, avec qui ils devaient partir en Afghanistan. Bon, cette photo, d'ailleurs, montre à quel point Anne-Marie, bon, elle est mécontente. Et d'ailleurs, en faisant des recoupages, on arrive à trouver la raison. C'est parce que, justement, elle a téléphoné à sa mère, et sa mère l'a houspillée d'une façon assez violente, et que, voilà, ils sont pas contents d'elle. On lui signifie qu'elle est une fille perdue, une fille ingrate.
Et même un peu fêlée.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, bah, sa mère a des propos très durs pour sa fille. Et Nicole Lebris, alors, dans ses premiers textes, dans ses tout débuts des années 30, elle écrit notamment un premier roman, un premier texte, Les Amis de Bernhard, qui, sans rencontrer autre chose qu'un succès d'estime, montre néanmoins déjà qu'elle a ce regard, cette volonté de l'écriture, et puis surtout la possibilité d'arriver jusqu'au bout d'un projet littéraire.
Oui, oui, mais c'est un texte tout à fait remarquable. Elle a 22, 23 ans. D'ailleurs, c'est un roman qu'elle écrit, dit-elle, pour Erika, pour plaire à Erika. Erika ne le lira jamais, n'acceptera jamais. Elle n'a pas le temps, Erika, est débordée. Mais Anne-Marie a écrit ce texte pour elle, par amour pour Erika. Voilà. Oui, c'est un texte qui témoigne d'une culture, d'une maturité assez étonnante. C'est un texte réussi.
C'est aussi une vision d'une époque. Ça montre ce qu'était justement ce moment, tout juste avant le basculement de l'Europe vers le nazisme et puis la guerre. Oui. Ces années d'effervescence intellectuelle autour de la République de Weimar.
Oui, elle écrit ce roman après avoir fait un séjour à Berlin. Elle a dû commencer en septembre 30, il me semble. Elle a fait un séjour à Berlin l'été précédent, et l'année d'avant, l'année universitaire précédente, elle était à Paris, où elle a fait un an d'études à la Sorbonne. Et donc, ce roman se passe entre Berlin et Paris. Le titre allemand dit « Amis autour de Bernhard ». Et c'est déjà un titre qui montre bien comment elle se situe dans, comment dire, dans le courant moderniste de l'époque. Elle est à Paris au moment où, elle est au Quartier Latin, elle est sur le boulevard Saint-Michel, au moment où vivent à Paris Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald, et son héros, elle le fait vivre du côté de l'Odéon, c'est-à-dire dans ce quartier-là. Elle-même a beaucoup fréquenté Montparnasse. Alors, j'ai l'impression, nous avons eu l'impression qu'elle écrivait ce roman en ayant toute connaissance de ce courant moderniste qui irrigue le moment à ce moment-là. Elle connaît Gide sans aucun doute. Et d'ailleurs, le nom de Bernhard vient sans doute des faux-monnayeurs. Mais il y a cette façon de montrer des destinées parallèles, de faire un roman multivision, comme on a pu dire. C'est le moment où on se passionne, par exemple, pour King Vidor, pour le film La Foule, et où tout le monde achète Dos Passos, parce qu'on se dit que King Vidor a été inspiré par Dos Passos, par Manhattan Transfer. C'est le moment du simultanéisme, et elle est tout à fait dans cette voie-là. Donc c'est un roman moderniste, et c'est un roman qui n'a pas vieilli. En même temps, c'est un roman plein de jeunesse et d'optimisme, parce que on est avant le grand basculement dans le nazisme, mais on est aussi dans la vie d'Anne-Marie, avant le basculement dans la drogue. Donc c'est un moment privilégié où elle montre toutes ses capacités intellectuelles et affectives avant le saut sombre dont la drogue va marquer sa vie.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Et reprenons le fil de ces reportages, de ce deux mondes en monde qui nous permettent de sauter de voyage en voyage avec Anne-Marie Schwarzenbach. Donc après ces premiers textes écrits au Moyen-Orient dans les années 33-35, on la retrouve aux États-Unis pour deux longs reportages, 35-37, en compagnie de la photographe américaine Barbara Wright dans le Maine et puis ensuite chez les mineurs à Pittsburgh. Et ça aussi c'est assez fascinant de voir à quel point elle s'intéresse en journaliste, en reporter, aux conditions de travail, aux conditions de vie de ces régions où là, elle ne fait pas les photos elle-même puisqu'elle est accompagnée justement par une photographe, Dominique Miremont.
Bah oui, c'est la découverte de la misère prolétarienne de l'époque. Bon, on a déjà signalé le fait qu'elle arrive, elle... Alors, elle photographie pas, enfin, elle photographie aussi un peu, même si Barbara Wright a la primeur, peut-être. Mais c'est Anne-Marie qui s'approche des gens et qui arrive à faire en sorte qu'ils se prêtent. C'est étonnant, par exemple, de voir cette photo des chômeurs, quatre chômeurs qui sont appuyés contre un mur d'une façon nonchalante et qui regardent l'objectif avec une sorte de confiance. Voilà, c'est comme ça que nous vivons. Vous en êtes témoin et merci de quelque part de faire un geste envers nous, enfin de nous considérer, alors que ce sont des gens complètement au bout du rouleau. Le sujet est vaste.
Non, mais on reviendra aux États-Unis tout à l'heure, puisqu'elle y retourne elle-même par la suite, dans un moment aussi extrêmement critique de la fin de sa vie. Ensuite, elle retourne en Europe pour, alors là, aussi des textes incroyables, 1937-1938, l'Europe de l'Est. Elle part tout un périple depuis la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne nazie et les pays baltes, et jusqu'en Union soviétique. Et il y a un texte qui, moi, m'a beaucoup touché, c'est la frontière entre la Suisse et l'Autriche, qui s'appelle « Une paire de chaussures tombe dans l'Inn », où elle raconte les destins de ces réfugiés, qu'on appellerait aujourd'hui réfugiés, à l'époque on les appelle apatrides, fugitifs, qui cherchent à passer, donc à quitter l'Autriche après l'Anschluss, pour rejoindre la Suisse et traverser ce fleuve. Il y a une falaise glacée, qui est en fait la frontière. Il y a un pont, évidemment, qui ne peut pas être emprunté, puisqu'il y a la douane. Et comment ces gens et des jeunes Suisses grimpent la falaise en apportant une paire de chaussures pour se réfugier, pour essayer de le faire passer clandestinement en Suisse. Un très beau texte qui montre aussi sa sensibilité pour ces destins de fugitifs et d'apatrides à l'époque.
Oui, en fait, d'une certaine façon, Anne-Marie Schwarzenbach avait des affinités et une empathie pour tous les déshérités, qu'ils soient des opposants au nazisme qui doivent fuir, qu'ils soient des ouvriers qui ne gagnent pas de quoi subsister, de quoi manger un peu de pain aux États-Unis. On en revient toujours à cette idée de frères humains, quel que soit, et en particulier elle est attirée par ceux qui n'ont pas ce dont elle a pu jouir dans son enfance, dans sa jeunesse, qui sont rabaissés à l'état de choses ou de sous-êtres, de sous-humains. Et elle va vers eux, elle voudrait faire quelque chose pour eux, mais c'est une tâche évidemment désespérée. Elle le sait quelque part, mais elle veut quand même témoigner de cette misère humaine.
Ça me rappelle une des nouvelles de fiction de Anne-Marie Schwarzenbach, dans laquelle elle est dans un train en Turquie, un train qui va justement en Syrie ou en Irak, et dans lequel il y a un apatride, comme on disait à l'époque, qui essaie de rejoindre, donc un juif qui essaie de rejoindre la Palestine.
Oui.
Et elle décrit comment ce personnage essaie d'échapper justement aux douaniers turcs et britanniques pour rejoindre clandestinement la Palestine, ce qui était interdit par l'autorité mandataire à l'époque. Est-ce que, Nicole Le Bris, comme ça, il y a souvent des moments où les reportages déteignent sur la fiction, où on retrouve dans ses œuvres de fiction des paysages et des moments qu'elle a décrits par ailleurs dans ses reportages?
Oui, tout à fait. Enfin, le reportage, on peut dire qu'il nourrit son écriture, mais elle a toujours tendance, sa tendance naturelle, c'est de verser, c'est peut-être pas verser, mais enfin de passer au lyrisme et à l'expression de sentiments personnels. D'ailleurs, quand elle était aux États-Unis, Kleiber, qui doit être le rédacteur de la NZZ, là, se plaint qu'il attendait des reportages objectifs et qu'elle lui livre surtout ses sentiments. Donc c'est une tendance qu'elle a, que certains éditeurs peuvent regretter, qu'elle essaie peut-être de refréner à certains moments, et les reportages que nous avons là sont relativement objectifs. Mais d'un autre côté, elle a eu aussi, en tant qu'écrivain, une tendance à abolir la frontière entre le reportage et la fiction. Et là, elle se situe dans la droite ligne de ce qu'avait fait Hemingway en 1925, dans De nos jours. Elle l'a lu en français d'ailleurs, je crois, un petit peu. Voilà. Donc elle connaît Hemingway, elle connaît cette tentative. Et je pense que cette tentative d'Hemingway l'a confortée dans cette tendance qu'elle avait à quitter la stricte description de la réalité pour y mêler son propre ressenti. D'autant plus que son propre ressenti contribue à aussi rejoindre celui des autres, en particulier de ces réfugiés, de ces gens en marge qu'elle a tendance à aller voir pour témoigner de leur sort.
Alors en 1939, c'est un autre départ de nouveau au Moyen-Orient, aussi pour des reportages, mais cette fois-ci en compagnie d'Ella Maillard.
Pendant tous ces voyages, il y a quand même une compagne, il y a une jeune femme dont vous parlez, qui a occupé beaucoup votre vie, c'est Christina, qui est morte aujourd'hui. Elle est très présente, par exemple, dans La Voix cruelle. Qui était cette Christina? Vous étiez différentes toutes les deux.
Alors, je dois dire ce que je n'ai pas eu le temps de dire dans ce livre, je crois. Le mari de mon ami Miette de Saussure, qui s'appelait Henri Sérig, qui était chef de l'archéologie au Liban, m'écrit un jour. Et là, j'ai fait la connaissance d'une jeune zurichoise archéologue qui aimerait beaucoup aller en Afghanistan avec vous. Et comme Henri Sérig était un homme remarquable, j'ai été voir cette jeune femme qui était dans une cure, faisait une cure de désintoxication en Suisse.
Oui, parce qu'elle se droguait.
Voilà. Donc, je ne la connaissais pas 6 mois avant de partir. Et là, on voit l'égoïsme. Quand elle prononce le mot Ford, mon père veut m'acheter une Ford, je dis « Ah !» La Ford, c'est ce qu'il nous faut.
Pour voyager.
Pour faire des photos, parce que j'ai déjà fait ce voyage avec les autobus locaux, qui sont des vieux camions, et je ne pouvais jamais faire de photos là où je passais. Donc, le motif, quand elle dit « Mon père va me donner une Ford », je dis « Eh bien, partons ». C'est typique.
Oui.
Mais, là, nous entrons dans le détail personnel de cet ami. Je me suis dit, moi, je suis, comment dire, vulgairement, on dit dur à cuire. Je suis très dur, ma volonté est très dure. Et peut-être que je réussirai à la sauver de la drogue en étant très dur. Parce que, par la suite, elle m'a dit, la plupart du temps, ceux qui viennent pour m'aider voient que je souffre tellement, et pour finir, me laissent retomber dans la drogue. Enfin, j'abrège en quelques mots, c'est les ridios ce que je dis. Et moi, j'ai appris une leçon terrible dans ce voyage. C'est que mon orgueil a été absolument inutile et cette amie est partie, pas guérie du tout. Elle me disait, je vous ai maintenant exténué par ma présence depuis 6 mois et je m'en vais. la guerre est déclarée en Europe et comme journaliste, je vais travailler en Europe. Et puis, je lui réponds qu'elle est trop malade et trop faible, qu'elle ne pourra pas faire grand-chose. Mais elle ajoute, quand je serai plus forte, je reviendrai vers vous et vers votre recherche de la sagesse. Elle est morte 2 ans plus tard. Donc, j'ai appris,
Elle est morte très jeune, d'ailleurs.
Elle est morte très jeune, mais 1, que j'avais cru pouvoir réussir, l'orgueil, et 2, que je partais pour assouvir mon désir de refaire ce voyage en voiture particulière et que j'avais complètement échoué, n'ayant rien compris à son tourment profond de morphinomane. Alors, c'était très dur pour moi de cet échec, d'avoir pas pu l'aider.
Nous venons d'entendre Ella Maillard évoquer Christina, qui n'est autre qu'Anne-Marie Schwarzenbach, au micro de Jacques Chancel dans une radioscopie de 1989, c'est-à-dire plus de presque 50 ans après les faits. C'est assez poignant, même très émouvant, ce témoignage d'Ella Maillard qui part donc dans ce long voyage avec Anne-Marie Schwarzenbach en 1939. C'est un moment aussi décisif, extrêmement douloureux de la vie d'Anne-Marie, Dominique Mirmont.
Oui, parce que elles se retrouvent donc, elles arrivent à Kaboul au moment de la déclaration de guerre, tout début septembre 1939. Et bon, là, la toxicomanie reprend de plus belle pour Anne-Marie, et bon, elles doivent se séparer, la Maillard ne la supporte plus, et elle comprend qu'elle a échoué, comme elle dit, très bien, elle n'avait pas compris que le simple désir d'aider quelqu'un ne suffit pas, il faut avoir des moyens, et elle n'avait pas ces moyens-là. D'ailleurs,
oui, il faut dire aussi que l'idée d'emmener une morphinomane au Moyen-Orient jusqu'en Afghanistan, c'est peut-être pas en soi l'endroit le plus judicieux, on va dire. Non, oui, peut-être il y avait un peu de. Même si le voyage, évidemment, peut-être tout, on se rend compte que voilà, c'est l'amener quand même dans un milieu plein de tentations. Non, Nicole Lebris?
Oui, mais Ella Maillard n'est pas la première ni la seule. Anne-Marie a eu tout au long de sa vie auprès d'elle des amis qui se sont dit que, en se dévouant corps et âme à la consolation d'Anne-Marie, en arrivant à rompre sa solitude, parce qu'elle a cette obsession de la solitude, elles arriveront à la délivrer de la drogue et de son tourment. Et ce qu'il y a, c'est que la drogue, c'est une addiction, bien entendu. Mais c'est aussi cette addiction même, le fait qu'elle ne réussisse pas à s'en délivrer, malgré quelquefois des tentatives sauvages de désintoxication en plein désert du Turkestan afghan. C'était épouvantable, elle a cru en mourir. Donc, si Anne-Marie est si dépendante de la drogue, c'est parce qu'il y a en elle un tourment à l'origine dont elle ne veut pas se défaire. Et la drogue l'aide en quelque sorte aussi à cultiver ce tourment métaphysique originel.
Dominique Mirmont.
Oui, enfin, un tourment dont elle ne peut pas se défaire. À l'époque, on n'avait pas vraiment les moyens. Les cures de désintoxication n'avaient pas de véritables résultats. Aujourd'hui, ce serait évidemment tout à fait différent. Idem pour Klaussmann, enfin, on voit bien. Et d'ailleurs, la drogue était très répandue, même dans le milieu médical. À Zils, par exemple, qui a été son dernier voyage, puisque c'est là qu'elle a fait une chute de vélo et qu'elle est morte 10 semaines plus tard. Zils, même le médecin que personnellement j'ai rencontré quand j'ai écrit cette biographie d'Anne-Marie Schwarzenbach, disait que les médecins arrivaient le matin, ouvraient l'armoire à pharmacie et prenaient une dose. Et on savait que certains médecins, ce n'était pas la peine d'aller les consulter avant 11h du matin. Parce que la drogue était très répandue. Elle était très répandue à Berlin, où elle l'a découverte. Elle était très répandue partout. Klaussmann en France, sur la côte méditerranéenne. Ils n'ont cessé de prendre de la drogue où qu'ils se trouvaient. Il suffisait dans les pharmacies, à cette époque, on pouvait demander un sirop contre la toux, et qui contenait une substance. Je ne sais plus comment s'appelle cette substance, je l'ai su, mais je l'ai oublié, peu importe. Voilà, et il n'y avait pas besoin d'ordonnance, on demandait simplement le sirop en question, et voilà, c'est comme ça qu'ils se requinquent quand ils étaient sur la côte méditerranéenne.
Néanmoins, ces voyages en Afghanistan avec El Amayar, malgré toutes les difficultés liées à son addiction, ont donné aussi des textes absolument somptueux. Et donc, dans De Monde en Monde, on en lit les reportages, mais c'est aussi l'occasion de certains de ces grands textes, les plus personnels, peut-être les plus émouvants. Et on va en entendre justement un petit extrait.
Est-il possible de s'enfuir, se demande-t-on ? Et si l'on se force à continuer de marcher, c'est seulement par instinct de conservation. On commence à murmurer les noms des gens que l'on croit aimer. C'est affreux de voir qu'eux aussi sont balayés, leurs visages réduits en lambeaux, leurs yeux vides, leurs corps si loin, insaisissables, perdus. On s'agenouille à moitié couché dans le vent. Il en sera toujours ainsi, pense-t-on, toujours. Maman, pense-t-on, comme ce nom aide à pleurer. Et il y a quelque chose tout au début que j'ai fait de travers, mais ce n'était pas moi, c'était la vie. Tous les chemins que j'ai suivis, tous ceux que je n'ai pas suivis, aboutissent ici, dans cette vallée heureuse d'où il n'y a plus d'issue, et qui, pour cette raison, doit ressembler au royaume des morts. Elle est remplie d'ombres du soir qui descendent lentement des montagnes et recouvrent les pentes et les troupeaux endormis, accrochés à leurs flancs comme du duvet. Et dans la lumière nocturne émergent doucement les unes après les autres, cimes et crêtes, des corps de bout du monde. On se relève un peu réconforté. Timidement, on pense à des possibilités qui existent en dehors de ce pays, dans une sorte de brouillard, très loin. On pense à des régions plus clémentes, avec des collines verdoyantes, des lacs bleus, des voiles blanches, des choses agréables. On pense aussi à des villes, rues animées, aperçues d'une fenêtre. Sifflement des bateaux dans les ports, bar à vin obscur dans une petite ville. Une route qui mène à la maison après avoir traversé des collines et longé le lac. Timidement et passionnément, on cherche un visage empreint de chaleur humaine qui aidera à revenir à la vie, bien ancré dans ses croyances, avec sa respiration profonde. Ah, on finira bien par trouver un jour une âme secourable. Et sur le chemin du retour, on a maintenant le vent dans le dos, on évite de longer le fleuve, on a peur de glisser du bord. Là où l'eau profonde et sombre coule lentement, et de maintenir son visage dans l'eau fraîche jusqu'à ce que toute sensation de désarroi et de douleur soit anéantie. On suit le sentier des muletiers et on ne quitte pas les tentes des yeux.
Nous venons d'entendre la comédienne Marianne Denicourt lire un extrait de La mort en Perse d'Anne-Marie Schwarzenbach sur France Culture au micro de Marie Richeux en 2012. De laquelle de vous deux est la traduction de Nicole Levry?
Non, c'est de Dominique.
C'est Dominique. Et c'est bien de vous avoir toutes les deux, puisque au moins on sait que c'est pratiquement à 90% soit l'une, soit l'autre traductrice d'Anne-Marie Schwarzenbach. On a entendu ce cri de maman qui vous fait pleurer, qui la rattrape en fait en Perse, sans doute dans ces nuits d'agonie du manque. Et de cette période terrible, elle se sépare fâchée avec El Amayar. El Amayar passera le reste de la guerre en Inde. Et elles ne se reverront plus, sauf par lettre, si je ne me trompe pas.
Oui,
il y a une correspondance par la suite. Et Anne-Marie, elle, rentre en Europe. Puis, et là aussi, c'est un sursaut un peu dans sa vie et dans sa carrière, dont les reportages sont assez extraordinaires. Elle se rend aux États-Unis. Et là, elle retrouve les enfants Mann, et notamment Klaus, qui entre-temps a émigré. Ils sont ensemble à New York quelque temps. Et Anne-Marie se passionne, ou en tout cas plutôt provoque la passion, de l'écrivaine Kirsten MacCullers. Et cette histoire aussi est assez magnifique, puisqu'elle ressemble un peu à un symétrique de ce qui s'est produit entre Erika Mann et Anne-Marie Schwarzenbach quand elle-même était plus jeune. Non, ou je me trompe complètement, Nicole Levrys?
La relation avec Kirsten MacCullers, enfin la relation, disons que leur amitié était moins longue de toute manière dans le temps, alors qu'avec Erika ça a duré, il y a eu des rebondissements, il y a eu des brouilles, il y a eu des réconciliations. Oui, Kirsten MacCullers s'était prise d'Anne-Marie qui elle-même n'a pas été. Mais elles ont continué à échanger une correspondance qui est particulièrement belle et éclairante au moment où Anne-Marie se trouve au Congo, dans cette situation absurde et tragique qui a été la sienne au Congo.
Néanmoins, la période new-yorkaise est aussi un moment très important.
Oui, enfin, c'est quand même un moment aussi très douloureux, très tragique, parce que, bon, elle arrive aux États-Unis avec une certaine Margot von Opel, qui est son amante, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'homosexualité qui rassemble cette jeunesse. Hein, Klaus, Erika, le Berlin très libéré du début des années 30, où l'homosexualité est exposée au vu et au su, surtout parmi les intellectuels. Donc Anne-Marie, bon, tombe amoureuse d'Erika Mann. Elle ne tombe pas amoureuse de Carson, c'est le contraire. Et Carson est plus jeune, beaucoup plus jeune même, alors qu'Erika était pas énormément. Mais Erika fêtait un peu la mère.
Oui, voilà, alors que quand Anne-Marie Schwarzenbach elle-même était plus jeune, elle était amoureuse d'Erika, qui la regardait un peu comme une enfant, de la même façon qu'elle-même, quand elle arrive à New York, finalement, voit aussi Carson McCullers comme une toute jeune femme, peut-être pas si intéressante que ça.
Oui, bon, je sais pas, l'attirance qu'elle avait pour
Carson. Je parle pas forcément d'attirance sexuelle, mais
intellectuelle.
Intellectuelle.
Elle a été, c'était le tout début de Carson, puisque c'était en juin 40, c'était le livre du mois. Carson McCullers a été vraiment au devant de l'actualité, et c'est là qu'elle a rencontré d'ailleurs à l'hôtel Bedford les enfants Mann, et un peu plus tard, donc Anne-Marie, tout le monde se retrouvait là à l'hôtel Bedford, tous les intellectuels de France, de Navarre et d'Europe se retrouvaient à l'hôtel Bedford. Mais bon, effectivement, Carson a quand même persisté dans le lien en lui écrivant à Anne-Marie, qui était quelqu'un de tout à fait bien élevé, correct, et qui était quand même intéressée par ce que faisait Carson, parce que c'était une écrivaine. Enfin, elles avaient une communauté d'activités et d'intérêts pour la langue, etc. Et qui a fait qu'elle a pu échanger avec elle pendant ce fameux voyage au Congo. Et Carson lui a dédié « Reflète dans un œil d'or », qui, entre parenthèses, qu'elle avait écrit, d'ailleurs, avant le livre qui a été le livre du mois et dont le titre tout de suite m'échappe.
« Le cœur est un chasseur solitaire ».
Voilà, « Le cœur est un chasseur solitaire », voilà, exactement. Ouais.
Donc elles ont continué à correspondre, mais elles ne se sont plus revues. Alors, faire reportage aux États-Unis, elle va à l'île de Nantucket, et continue donc à poursuivre toujours son activité d'écriture pour ses illustrés zurichois. Et ce sera son dernier voyage, vient le Congo. Et là aussi, encore un moment triste et tragique. On a l'impression que plus les années avancent et plus elle accumule comme ça les tragédies, Nicole Lebris.
Oui, bah déjà, quand elle rentre des États-Unis, sa mère lui fait dire que sa présence n'est pas désirable en Suisse. On lui propose de l'argent pour repartir. Bon, donc elle repart à ce moment-là pour Lisbonne et de Lisbonne au Congo. Mais pourquoi le Congo ? C'est parce que elle éprouve le besoin impérieux de s'engager contre le nazisme et aux côtés de la France libre. Et le Congo à ce moment-là, eh bien, c'est le Brazzaville. C'est la capitale de la France libre. Donc elle espère au Congo se mettre au service de la France libre en faisant de la radio, par exemple, en écrivant des articles de propagande pour le monde libre. Mais alors ce qui se passe, c'est qu'elle se trouve dans une situation mais vraiment épouvantable. C'est qu'à son arrivée, elle suscite la défiance à ce point qu'elle ne pourra jamais se mettre au service des Français libres. C'est tout à fait kafkaïen. Au début, elle ne comprend pas pourquoi on la bat froid. Elle fait des propositions auxquelles on ne répond pas. Mais c'est qu'en réalité, ces gens se sont dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette personne si belle, germanophone, mariée à un diplomate français, mais qui, à ce moment-là, se trouve par le hasard des circonstances au service de Vichy, naturellement, étant donné la date. » Ils l'ont prise pour une espionne. Et donc, cette femme qui a affronté tous les dangers, y compris la mort, parce que simplement, les bateaux risquent d'exploser du fait d'une mine allemande à ce moment-là, qui a affronté tous les dangers, la solitude, y compris la mort, pour venir se mettre au service de la France libre, se trouve récusée par des gens qui simplement n'ont rien compris.
Dominique Mermont.
Oui, c'est absolument dramatique. Je ne sais pas, je pense que Nicole a dit l'essentiel.
Enfin, je vais peut-être revenir sur ce mariage avec ce monsieur Clarac, qu'elle épouse donc au milieu des années 30, en 35, oui, alors qu'il est diplomate à Téhéran, je crois qu'elle le rencontre au Moyen-Orient, à Damas ou à Beyrouth, et il décide de se marier.
Oui, bah
ça aussi, c'est assez
aussi
surprenant. Parce que c'est madame, on l'appelle comme ça, d'ailleurs, on le voit dans les lettres, madame Clarac.
Oui. Et elle publie parfois ses articles dans la presse suisse, reprennent ce nouveau nom qu'elle a, son nom de femme mariée. Bah, que dire, lui est un homosexuel, elle est homosexuelle, ils ont des affinités intellectuelles, elle s'intéresse beaucoup à l'archéologie, lui aussi, ils ont une forme de tendresse l'un pour l'autre, sans aucun doute. Moi j'ai rencontré Clarac qui était, un peu avant sa mort, il était à Nantes, parce que c'était un enfant de Nantes qui a terminé sa carrière en Orient,
C'était un enfant de Nantes, donc
C'était un enfant de Nantes, oui, voilà, exactement. Et ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre, et pas seulement. Enfin, ils ont des affinités, des discussions infinies, parce que ce sont deux intellectuels. Et à la fin, donc, quand elle rentre du Congo, elle passe par le Maroc, justement, où lui est en poste. Et
alors
qu'elle voulait divorcer, d'ailleurs, elle voulait divorcer pour se sentir plus libre, enfin c'est un peu compliqué. Et là, il retrouve une forme de tendresse qui fait qu'elle repart et lui l'attend, enfin elle promet de revenir à Tétouan, puisque c'est là qu'il est en poste. Et puis bon, finalement, l'accident qu'elle subira quelques semaines plus tard fera qu'elles ne se sont jamais revues.
Et alors son itinéraire africain, il passe par Lisbonne, donc par le Portugal, et par les colonies portugaises africaines, et puisqu'elle passe par Luanda pour rejoindre ensuite le Congo Brazzaville. Et elle tire de cela d'ailleurs plusieurs reportages, notamment sur les Suisses installés dans la forêt équatoriale, qui sont assez surprenants. Et c'est ces derniers textes publiés, si je me trompe pas, ces textes africains, Nicole Lebris, ou est-ce qu'elle publie encore des choses après, par la suite?
Je me rappelle pas. Tu te rappelles, toi?
Le retour du Maroc quand elle passe quand elle traverse la Méditerranée pour se retrouver en France. Mais voilà, non, après elle n'écrit plus. Elle écrit, elle travaille au miracle de l'arbre. Justement, ce fameux arbre, elle poursuit son manuscrit commencé en Afrique. Et elle le retravaille parce que l'éditeur...
Oui, parce qu'il faut dire quelques mots de ce fameux miracle de l'arbre, qui est quand même à la fois très triste, mais très beau en même temps. Nicole Lebris, parlez-nous du miracle de l'arbre.
Oui, pour répondre à votre question précédente, il me semble qu'il y a un reportage qu'elle publie encore à la suite de son voyage en Afrique, qui est Retour en Europe, qui est important, parce qu'elle redit son amour et sa foi dans l'Europe à ce moment-là. Oui, alors le miracle de l'arbre... c'est ce manuscrit qui lui a fait tant d'ennuis. Parce que, bon, s'étant rendu compte qu'elle ne pourrait pas collaborer avec la France libre, et ayant perdu toutes ses illusions, elle se consacre entièrement à ce manuscrit et elle pense à repartir. Et elle réussit à avoir son visa, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle puisse partir avec son manuscrit. Or, il y a la censure. Et si ce livre tombe entre les mains de la censure, ce qui risque de lui arriver, c'est qu'elle ne puisse pas quitter l'Afrique, qu'elle soit internée, carrément. Parce que telle était sa situation en Afrique. Elle était menacée d'internement. Donc, ce manuscrit, Le miracle de l'arbre, c'est son souci intense dans ces dernières semaines en Afrique.
Alors que pourtant le contenu n'a pas grand-chose à voir ni avec la guerre, ni avec des questions politiques qui auraient pu gêner les Français.
Mais non, mais alors c'est là qu'on se rend compte, quand on va voir ce qu'on a pu lui reprocher dans le contenu du miracle de l'arbre, on se dit qu'on touche du doigt la paranoïa de la guerre. Elle raconte, en quittant l'Afrique, ce récit qu'elle écrit sur le bateau au retour, au moment où elle est en sécurité, au moment où elle sait qu'elle sera plus coincée en Afrique. Elle raconte les difficultés qu'on lui a faites, sa conversation avec celui qui assurait la censure, précisément, parce que tout était censuré. Les lettres, les reportages, tout était censuré. Le responsable de la censure lui cite le passage du miracle de l'âme, qui est particulièrement choquant. Nous l'avons repéré, nous l'avons publié dans ce livre. Mais ça n'est rien du tout. Rien du tout.
Non, c'est...
Et qu'on ait pu penser à garder en Afrique ou à interner quelqu'un qui se contente de dire la panique des Noirs un soir d'incendie dans la ville, ça paraît mais d'une absurdité confondante.
Oui, effectivement, on touche là la réalité de la guerre et de la censure. Et Dominique Lormiermont, ensuite, Anne-Marie Schwarzenbach rentre en Suisse, à Sils, en Engadine, comme vous l'avez dit, où elle mourra quelque temps plus tard d'un accident de bicyclette. Suites d'un accident de vélo.
Oui, mais après... surtout de la drogue. En fait, ce qui fait qu'elle tombe de vélo. C'est pas, il y avait rien qui justifiait un accident de vélo. Simplement, elle avait des moments où de véritables catalepsies. Elle tombait en catalepsie et donc elle tombait soit la tête dans les épinards comme par exemple à New York. C'est une scène que décrit Klaus Mann dans son autobiographie. Et là, elle tombe de vélo. Elle tombe de vélo, elle est fortement, évidemment, sous drogue et elle perd complètement la raison. Elle est mal soignée, enfin, elle est mal prise en charge. Elle reconnaît plus personne et même Clarac, son mari, qui viendra, qui essaiera de la voir, n'aura même pas accès à elle parce qu'on lui dit qu'elle est dans un état qu'on ne peut pas voir, quoi. Et elle meurt. Elle a eu 10 semaines épouvantables. À la fin, sa mère, alors elle retourne dans sa famille à Zurich. À Bocken, dans la propriété de Bocken. Et puis, sa mère dit, au fond, elle aimait sa maison de Zils, dans les montagnes, dans la vallée de Saint-Moritz. Elle mourra, là, complètement abandonnée, toute seule, avec interdiction de visite, ses amis de Zils, elle en avait énormément, c'était un personnage. C'était vraiment une femme très, très appréciée de tous, aussi bien à Zils qu'à Zurich, enfin partout où elle passait. Et elle meurt dans une solitude complète le 15 novembre 42.
En tout cas, il faut lire absolument ce recueil de reportages qui permet justement de suivre une façon un peu une forme d'autobiographie indirecte où on a l'impression que c'est filmé en fait en caméra subjective où on voit ce qu'elle voit. On est dans les yeux un peu d'Anne-Marie Schwarzenbach entre 1934 et 1942. Merci beaucoup, Dominique Lormiermont.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Nicole Lebris. De Monde en Monde, reportage d'Anne-Marie Schwarzenbach est paru aux éditions Zoé. Cette conversation littéraire était réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Benjamin Vignal à la technique aujourd'hui. La préparation en était assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure, mais d'ici là, vous pouvez réécouter et podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et sur le site de France Culture. Bonne fin de samedi sur France Culture.